Well, this is a first time. We're going to finally get an interview done in French. Unfortunately, we don't have a lot of time on the tape, and I've already taken up a lot of Mr. Chandler's time, Patrick Chandler, who is with the Canadian Grain Commission as an inspector at the Quebec City office, right next door to the Bungie elevator. So I'm going to ask Patrick to introduce himself and tell us about his career in the grain industry, how he first of all got into it and how it progressed.
Okay, mon nom c'est Patrick Chandler. J'ai 36 ans, j'habite à Québec maintenant depuis 8 ans. Je suis natif de Baie-Comeau et c'est lorsque j'ai commencé à travailler pour la commission des grains, c'était à Baie-Comeau. Fait qu'un petit peu de mon histoire, c'est pas compliqué. À 21 ans, je travaillais en tant que commis aux pièces chez Hyundai. J'ai rencontré un monsieur qui m'a rencontré, qui m'avait dit qu'il m'avait déjà vu, parce qu'il m'avait déjà vu travailler aussi au club de curling à Baie-Comeau. Il m'avait dit qu'il y avait peut-être un emploi qui prenait intéressant pour moi au gouvernement. Fait que je suis allé, j'y ai appliqué et j'ai finalement eu la job à 21 ans. J'étudiais en administration au Cégep à Baie-Comeau. Puis j'ai commencé après ça à travailler à la commission à 21 ans. C'est ça, j'ai travaillé pendant 7 ans à Baie-Comeau. J'ai eu mes débuts à Baie-Comeau, j'ai étudié beaucoup là, qu'est-ce qui est du guide d'agréage, les lois. J'ai étudié beaucoup par moi-même parce que à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas accès à l'information comme on a aujourd'hui. Fait que je me suis montré un petit programme moi-même que j'ai fait moi-même pour étudier, pour devenir inspecteur. Après 7 ans de travail à Baie-Comeau ainsi que d'études, j'ai appliqué pour un concours d'inspecteur que j'ai passé. Mais avant même d'avoir passé mon examen de PI3, j'avais passé mon examen de PI2 qui se trouvait être un assistant peseur et inspecteur, qui consistait à faire la pesée des navires ainsi que l'inspection. Mais j'ai seulement été 2 mois comme PI2. J'ai passé l'examen de PI3. Quand j'ai passé mon examen de PI3, j'avais le choix entre Québec, Montréal ou Baie-Comeau comme endroit à travailler. Je connaissais beaucoup Québec, j'adorais Québec, la ville, pour ce qui est de beaucoup de choses. J'avais besoin de changement à l'époque. Alors, à 28 ans, je suis parti de Baie-Comeau pour devenir inspecteur à Québec. Et maintenant, ça fait 8 ans que je suis à Québec et pas loin de 15 ans que je travaille à la commission. Et dans mes 8 ans à Québec, j'ai effectué beaucoup de tâches non reliées nécessairement directement à mon travail d'inspecteur. J'ai été aussi entomologiste pendant un an et demi, remplacement de Joanne Princeton, pour ce qui est des inspections d'élévateurs. Fait que j'ai inspecté les élévateurs à Baie-Comeau, à Baie-Québec, à Montréal, à Prescott, Trois-Rivières, Sorel, pendant cette année et demie-là. Fait que c'est ça, je vérifiais pour la propreté de l'élévateur, des élévateurs, et je vérifiais aussi pour les infestations d'insectes dans les élévateurs. Ensuite de ça, dans ma carrière aussi, j'ai eu la chance de passer sur des comités aussi pour l'embauche. Il y a des gens qui travaillent présentement à Québec que j'ai embauché, que j'ai contribué à l'embauche, si on veut. J'ai passé une entrevue pour eux, j'aurais donné les examens. Puis travaille aussi présentement à la commission. Pour de ça, dans ma carrière d'inspecteur, j'ai fait toutes les ports aussi là, la région de l'Est, qui consiste à être port quartier Baie-Comeau, Québec, Sorel, Trois-Rivières, Montréal, Prescott, et j'ai été aussi à Halifax à mon jeune âge de 23 ans. C'est à peu près ça l'histoire de ma connaissance du blé en tant que tel. Quand j'ai commencé, c'était zéro. Compliqué. J'ai étudié en administration, fait que je connaissais rien dans le blé. Puis même que Cargill, je vous dirais que je savais que ça existait à Baie-Comeau, mais à savoir c'était quoi la compagnie Cargill, je vous dirais que je connaissais pas grand-chose. J'ai appris beaucoup. J'ai appris aussi mes cercles dans mon cercle d'amis, c'était quoi exactement Cargill, puis qu'est-ce qui se passait là. Puis j'ai appris aussi à connaître la compagnie Cargill, qui est une très grosse multinationale. qui ont des champs de blé, ont leurs propres vaches, leurs propres. Tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il y a rapport avec la nourriture, Cargill a sa main là-dedans, quelque part. Ensuite de tout ça, qu'au début, Cargill, je me suis fait dire aussi que c'était le bébé de Cargill, quand ils ont décidé de construire Cargill à Baie-Comeau. Puis dans la construction de Cargill, dans la baie dans la baie à Baie-Comeau, c'était construit dans une montagne. Alors, si vous regardez si vous avez la chance de visiter Cargill un jour, je pense pas que vous ayez cette chance-là, malheureusement, parce que c'est privé. C'est tout construit dans la montagne. Alors, quand vous montez, vérifiez les bins ou les silos, ben vous avez une pente, vous avez une côte à monter. Puis dans l'élévateur même, il y a une pente qui se trouve à être la montagne. On a dynamité beaucoup la montagne pour faire descendre la montagne pour pouvoir construire Cargill présentement, où est-ce que c'est. Pour qu'est-ce qui est de Bungie, je vous dirais, je ne connaissais pas beaucoup Bungie. J'ai appris un petit peu de l'histoire, qu'est-ce qu'il y en est. Je ne sais pas si vous vouliez que je parle de l'histoire de Bungie tout de suite. Mais ça, je vais vous lire un petit peu qu'est-ce que j'ai su sur l'élévateur de Bungie. C'est un terminal qui est présentement sur la rue Abraham-Martin, qui se trouve dans le port de Québec. Qui a été construit, qui a vu le jour en 1904 sous la forme d'un rudimentaire d'un hangar de bois. Ça veut dire que dans l'époque, c'était seulement un hangar de bois, c'était aucunement conçu pour recevoir du grain. Mais vu les besoins toujours grandissants dans le marché du grain de l'époque, c'est en 1913 que débute la construction d'un élévateur à grain des plus modernes, entièrement fait de béton et muni d'équipements permettant le déchargement et le chargement de navires et de wagons dans les délais les plus courts. C'était inauguré en 1914. La structure, dont la tour atteint les 60 mètres de hauteur, ayant pour espace de stockage 51 silos pour une capacité totale d'environ 8 000 tonnes, est opérée par le gouvernement fédéral jusqu'en mai 1967, date où Bungie prend possession du terminal qui a déjà bénéficié d'un important agrandissement, soit en 1917, 1928, 1958 et 1964. C'est aux commandes d'un terminal de 604 silos, dont la capacité totale frise les 225 000 tonnes, que Bungie entreprend une carrière florissante à Québec qui dure maintenant depuis plus de 40 ans. Étant situé sur une artère stratégique de navigation reliant les Grands Lacs au reste du monde, à l'extrémité des lignes de chemin de fer, l'entreprise a tout de suite perçu le potentiel de cette porte sur le marché des vieux continents.
Did a good overview of your history with the Grain Commission. When you grew up in Baie-Comeau, the elevator was there, but from what you said previously to me, it was there, but you never really knew what it did.
Exactement.
So, given your what you knew then, what you know now, what amazes you about the grain industry in Canada?
Qu'est-ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on était réputé mondialement avec la réputation d'avoir le meilleur grain au monde. Je pense que c'est ça qui m'a le plus frappé. Aussi que c'est qu'est-ce qu'on exportait le plus du Canada, que ça se trouve à être le blé. C'est les deux choses que je pense avec les années qui m'ont plus frappé là, de la réputation du grain puis des élévateurs à grain puis
And what do you see as your part in that reputation?
Je veux dire on est un petit peu les ouvriers de la grosse échelle là. On est un petit peu en bas de l'échelle mais je veux dire, on fait une grosse partie dans le sens de protéger la réputation, parce que c'est nous qui émettons les certificats de qualité et de quantité. À ce moment-là, d'où l'importance de notre travail, là, qu'il soit bien fait, parce que si on veut conserver notre réputation, puis être connu encore mondialement en ayant la meilleure qualité de blé au monde, ben, je pense que c'est important que les inspecteurs fassent respecter justement les règlements de la loi et de la réglementation.
There's a connection between what you do, or not to put words in your mouth, but what you see is the connection between what you do and the farmers that grow.
Oui, c'est officiel que c'est sûr que c'est pas des sujets normalement qu'on discute beaucoup entre collègues de travail, mais je pense que c'est important de souligner que effectivement les fermiers on les protège. Je veux dire, c'est dans ce sens-là que c'est officiel que c'est entrerelié. On est entrereliés, veut pas, parce que si moi je ne fais pas bien mon travail, mais le fermier il est perdant. L'acheteur aussi est perdant. Mais à quelque part, le fermier, c'est sûr qu'il est payé aussi par les compagnies, mais c'est important que justement que les inspecteurs soient qualifiés et aient des bonnes connaissances pour justement donner le meilleur grade justement pour que le fermier puisse vendre son grain à un meilleur prix possible.
If we're talking about assuring or doing your part to assure the quality of the grain, a term that's come up quite often is the importance of the certificate final. What exactly is that, and how do you see the work you do that contributes to that? What's the connection?
Ouais, c'est ça. Donc, en gros, je vous dirais, mon travail consiste à toutes les 2000 tonnes, on fait une analyse sur le grain. Puis dans l'analyse, on a des caractéristiques puis des tolérances à respecter. Les tolérances sont établies par la réglementation qui est émise par le gouvernement, par la loi du gouvernement, qui c'est tous des livres là, avec des tolérances dedans. Puis nous autres, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait respecter les tolérances préétablies. Puis une fois que les tolérances ont été établies puis qu'on donne un grade visuel dans le sens que c'est pas nécessairement toutes les blés que tu peux grader ou tu peux donner un grade dessus, c'est visuel à l'occasion, pas nécessairement numérique. Le visuel, ça consiste en le grain mildiou qui se trouve à être. Après ça, vous avez le gelé, en anglais c'est frost. C'est des tolérances visuelles qu'il faut donner le grade. Une fois que ça c'est fait, que le bateau est fini de charger, puis que tout est dans les tolérances et dans les normes, faut remplir les documents qu'on envoie au bureau central. Puis avec le bureau central, les autres vont prendre les tolérances puis les pourcentages qu'on a sortis durant tout le long du chargement pour remplir, qui vont vérifier aussi pour voir si on est en tolérance du grade demandé du grain. Pour remplir le certificat. Au moment où ils ont toutes les informations qu'ils ont besoin, ils vont dépendre de la demande de l'acheteur. Puisque l'acheteur, lui, ce certificat-là, c'est de l'or pour eux autres. Parce que ça certifie comme quoi qu'est-ce qu'ils ont acheté, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont demandé, dans le fond. Fait qu'une fois qu'ils ont tous les pourcentages, ils vont remplir le certificat, puis ils vont les mettre le certificat, puis l'acheteur va libérer l'argent pour payer les compagnies, payer les fermiers, payer.
So if you don't get it right, it's not like a $10 difference.
Exactement, c'est beaucoup d'argent. On parle de beaucoup d'argent dans le blé. Là. Je veux dire, faut aller voir les cotations à la bourse. Là, même, si vous regardez le prix du blé, du rhum ou du Red Spring ou même du soya ou du maïs, là, ça vient cher à la tonne. Là.
Combien?
Tout dépendant. Là, vous avez ça peut aller à 200 pièces la tonne, 300 pièces la tonne, 400 pièces la tonne, dépendant de l'offre et de la demande.
Et avec le grandeur du bateau, at that per tonne, you're looking at combien?
Je sais que pour le Durham, on peut parler de si c'est. Si on a un exemple de bateau en moyenne qu'on charge ici à Québec, c'est environ 25 000 tonnes. On peut parler peut-être pour le du blésure, 4 millions. 4 millions de chargement. Qu'est-ce qui est du soya? Je sais qu'il y avait du soya, il y a un chargement qui s'est fait à Sorel. Puis il avait chargé, je pense, c'était 20 000 tonnes. Puis c'était tout du soya canadien. Puis la cargaison valait, juste la cargaison, c'était 2 millions.
Connected with this is. De quoi êtes-vous le plus fier? pendant votre carrière?
Pendant ma carrière, qu'est-ce que je suis le plus fier? Je pense que la commission, ça, le travail que j'ai fait à la commission, ça m'a rendu l'homme que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis le plus fier? C'est de faire des navires, pouvoir charger des navires tout seul, puis de manière efficace et professionnelle.
I don't think you've answered this, but with my understanding of French, you might have, so you could always you could always correct it.
That's okay.
The difference between the operation here and the operation as you would see it in Thunder Bay. Well, how's the work the same or di well, let's concentrate on how it's different.
J'ai jamais vraiment travaillé à Thunder Bay, mais de qu'est-ce que je sais, c'est que Thunder Bay, eux, qu'est-ce qui sort de Thunder Bay, ça se trouve à être des Lackeys, en français des Lackeys ou des Lakers, qui se trouvent à des navires qui ont un tirant d'eau qui ne peuvent pas naviguer en haute mer. C'est des navires qui sont conçus pour passer dans les lacs puis dans les rivières du Saint-Laurent et aller jusqu'au Grand Lac. Ensuite de ça, il y a les trains. Qu'est-ce qu'il y a des trains? Eux autres, ils chargent les trains puis ils viennent décharger ici. Puis c'est ça les deux grosses différences. C'est aussi les navires océaniques. Nous, qu'est-ce qu'on exporte? Nous, on exporte le grain, dans le fond. Puis dans le fond, Thunder Bay, c'était un peu un between man ou une manutention qui fait qu'il finit pour finir finalement sur les ports, sur les bords de l'eau, pour exporter à l'acheteur ou au client. Fait que dans le fond, Thunder Bay, c'est comme un point d'arrêt pour livrer justement le grain dans des ports de déchargement ou dans les usines de transformation.
What changes in your young life have you seen in the grain industry as it operates on the east, in the eastern side of the system?
Moi, je vous dirais les gros changements que j'ai vus dans ma carrière, c'est premièrement l'informatique. On a passé d'un vieux Mac à disquette à Internet. C'est sûr que les programmes informatiques qu'on travaille avec présentement, c'est désuet aussi, c'est en noir et blanc, c'est pas super high-tech, mais je voudrais que c'était ça le plus grand changement aussi parce que l'étude est rendue beaucoup plus facile avec Internet.
So, how does that have an impact on your day-to-day work? Like, how does having that internet access?
La rapidité des questions. Je veux dire, si moi j'ai une question concernant un pourcentage, concernant une définition, peu importe, je vois sur Internet puis j'ai la réponse automatique. Puis je veux dire, en plus, je sais qu'elle est bonne l'information parce que dans le papier, le problème avec le papier, c'est que s'il y avait eu des changements, mais le papier n'était pas nécessairement changé, tandis que sur Internet, les changements se font automatiques. Ils sont capables de le faire automatique, les changements. C'est beaucoup moins
Et
de. L'information est plus directe et plus à jour.
est possible de identifier les problèmes that might be new to you, like if you come across a new issue, easier to
Certainement.
get the answer?
Certainement. Certainement, je veux dire, avec Internet, là, je vous dirais que ça peut aller de n'importe quoi, là, aller jusqu'à des questions sur, quand j'étais en situation de voyage, à des questions sur le blé. Je veux dire, on a des programmes de recherche, on a des programmes sur Internet aussi, là, je me souviens à l'époque, il y avait des slideshows, des diapos sur les différents problèmes de grains. À ce moment-là, si moi j'avais une question sur un grain que j'avais jamais vu, que je connais pas, mais j'ai tout le temps accès à ces photos-là pour me rassurer moi et me garantir que qu'est-ce que je suis en train de grader ou qu'est-ce que je vois, c'est bien ça. Ça, c'est gros. Là. Juste ça, c'est gros dans le sens que, comme on disait tantôt, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Puis si moi j'ai une question, si moi je me questionne sur qu'est-ce que c'est. Si je suis pas sûr à 110% de qu'est-ce que je vois ou qu'est-ce qui est en avant de moi, il peut y avoir des problématiques, ça peut aller loin. parce que les compagnies peuvent actionner le gouvernement parce qu'il y a eu du retard, puis c'est lui qui a payé, puis là, ils vont actionner le gouvernement. Le gouvernement va être obligé de payer pour le retard à cause de moi, à cause de quelque chose que je ne savais pas vraiment. Ça peut être gros. On parle de gros problématiques, de la grosse argent.
Besides the change in the technology, changes in services provided, has that changed over your time?
Oui. Il faut officiellement, qu'est-ce qui est des problèmes de Cotaxin, des tests qu'on ne faisait pas dans le passé. Il y a aucun toxine qu'on ne fait pas. Il y a beaucoup plus d'extra simple que comparativement dans le passé. Aller jusqu'à la bromitoxine, aller jusqu'à GMO, c'est ce qu'on trouve être génétiquement modifié. Ça aussi, c'est des acheteurs qui ont des demandes qui ont augmenté avec les années. Puis ça nous a créé plus de travail que dans le passé.
What kind of tolerance do they have for those problems?
Les pourcentages sont vraiment pas élevés. Je connais pas les pourcentages par cœur. C'est 0.0 quelque chose. Vomitoxine, je connais pas les nombres non plus d'exactement ça parce que moi personnellement, je travaille pas dans les laboratoires de recherche vraiment. Fait que de savoir les pourcentages exacts, je les connais pas. Mais je sais que c'est vraiment pas haut. Mais je sais que comme les GMO, si on parle de GMO, dépendant des pays, c'était zéro. Tolérance, c'était zéro. C'est aucun pourcentage de toléré de grains génétiquement modifiés. Fait que c'est des gros changements, ça, c'est officiel, là, depuis l'époque.
I have a question, and I didn't ask you this one in English, but it just comes out of... a question about Cargill that kind of came out in another interview. Cargill out in Baie-Comeau, does it handle both American shipments and Canadian shipments?
Do you want the answer in French or in English?
Give it to me in both.
Okay. La réponse est très simple. C'est pas juste Cargill qui mène l'attention du grain américain. C'est toutes les compagnies sur Saint-Laurent ont la possibilité de manutentionner du grain américain. Dans le sens que les barges partent des frontières sur la côte américaine, la côte est américaine. Oui. Puis les barges, ils longent les côtes pour se décharger soit à Port-Cartier, Baie-Comeau, peu importe. Oui. À l'époque, on pouvait faire une vérification pour les insectes, même qu'on faisait on envoyait des Américains faire des seaboards, qui se trouvaient être un genre d'inspection comme un peu nous autres on fait. Mais généralement, nous, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque, mais on le fait plus, sont vérifiés pour les insectes. Juste les insectes de grains exportés. Fait que, en gros, c'est ça. In English, well, it's not only Baie-Comeau that can handle American grain. All the elevators on the St. Lawrence can handle the American grain. They do export American grain also. I never heard American grain coming in by cars or by train, but I've heard about Lakers coming in, American grain coming in by Lakers from Louisiana or places like that.
Duluth. Maybe yeah. Not so much.
That they unload in elevators and export from those elevators, yeah, for sure.
Do they have to segregate the product then that you know of?
That's the responsibility. Ça, c'est la responsabilité de l'élevateur. Qu'est-ce qui est de variété, de type de grains, ces affaires-là, c'est la responsabilité de l'élevateur de ne pas les mélanger. Si on regarde du côté canadien, ils ont la responsabilité de garantir la variété de grains qu'ils exportent. Dans le sens que si ils mélangent du blé américain avec du blé canadien qui peut se rassembler beaucoup, puis qui font des tests à Winnipeg ou même de l'acheteur, puis qu'ils se rendent compte que le pourcentage de variété est plus américain ou que canadien, puis s'ils ont commandé le canadien. Mais là, il y a des grosses problématiques, puis encore là, ça va aller en cours, puis on parle de beaucoup d'argent aussi. Fait que c'est pas en la faveur des compagnies de mélanger les différentes sortes de blé canadien-américain. So in English, yeah, that's pretty much it. What it is that when they do receive American grain, They put them in the bins, the same thing as a Canadian grain, and it's the elevator's responsibility to make sure that they don't mix with other kinds of grains. With the bug issue, well, that's another thing with American grain is when we do elevator inspections, we do drop samples for every bins. So we don't even look if it's Canadian American. We want to do a drop sample on it. So if the American grain is infested, then we'll have to fumigate same thing as a Canadian green grain.
The bugs know no boundaries.
Exactly. But for the other parts, like for shipping, usually in the old days we used to, but I didn't mention this, we used to inspect them for bugs. And we did used to inspect holes for American, in the name of the Americans, but now we don't do that mandate anymore. We only do Canadian export grain.
The
pas de question en français.
Thinking about the stories that because we have a sort of a shorter version here. Tell me about the whales.
Ah, les baleines.
The whale stories.
En français.
Oui.
C'est intéressant, ça.
Yeah. C'est une bonne histoire.
Dans le fleuve Saint-Laurent, au Québec, on a la chance de pouvoir avoir des animaux, des animaux dans notre eau. qui se trouve être des mammifères baleines, par exemple. On a différents types de baleines dans le Saint-Laurent. On a des rorquals qui se trouvent être le nom commun, c'est rorquals, un rorqual commun, ou des baleines bleues, même des baleines bleues, même des belugas. On a déjà eu à Cargill, à l'époque que je travaillais à Cargill, un beluga qui avait décédé, je pense, à cause de... je pense que c'était une hélice de bateau qui avait brisé, qui avait coupé le beluga. Le beluga s'avait échoué, si on veut, dans la baie ou Cargill. Puis il y avait une odeur terrible qui avait sorti de la baleine, du beluga, évidemment. Puis c'est nous qui avions appelé justement Environnement Canada pour qu'Environnement Canada vienne chercher le beluga et l'emmener plus loin pour le laisser mourir. Mais l'histoire plus agréable, c'était que on trouvait ça bien drôle, nous autres, quand je travaillais à Bécomo, qu'il y a des gens qui venaient à Bécomo payer pour aller voir des baleines. Que nous autres, ce qu'on travaillait dans le bureau au deuxième étage, on avait une vue sur la baie, puis il y avait des baleines qui se nourrissaient dans la baie, qui se trouvaient être des petits rorquals communs. Là, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils faisaient un tourbillon dans l'eau, ils tournaient puis faisaient un tourbillon, puis après ça, ils allaient passer dans le milieu du tourbillon pour manger le krill qui s'avait pris dans le tourbillon de la baleine. Fait que c'est ça, c'était un très beau show qu'on avait, nous, à voir. Puis on était payé pour regarder le show. On trouvait ça bien drôle. Puis qu'est-ce qui était encore? On voulait avoir un meilleur point de vue, bien, on montait dans la galerie de l'expédition. Puis qu'on voyait dans la baie les baleines se promener, là, qui était quand même assez spectaculaire aussi, là, comme expérience. C'était le fun. Ouais.
Et how do they feed?
Ah, c'est ça que j'ai expliqué dans ce projet.
Ah, OK. Yeah. Good. I don't pick up everything.
Ah, c'est vrai, j'ai oublié les requins. Ils ont trouvé, je pense, l'année que je suis parti de Bécomo. Ils ont trouvé des requins du Groenland qui se promenaient dans le fond de l'eau, là, dans la baie en face de Cargill.
So, look at the money you've saved by not having to pay to go whale watching.
Well, I did pay anyways for to go see some whales in a boat.
It wasn't half as fun.
No.
What, and this may go sort of with what are you most proud of, but when you think back to the significant events in your career up to this point, what have been your significant achievements and any setbacks?
Ben, c'est pas compliqué, je veux dire, si encore à ce jour, là, je m'en rappelle, là, puis ça m'avait fait beaucoup de... J'avais passé à travers beaucoup d'émotions. C'est quand j'ai eu les résultats de mon examen de PI3 puis que j'avais su que j'avais passé, puis que je savais que je m'en allais de Bécomo. Ça, c'était un moment de ma carrière qui était inoubliable. Puis j'ai appelé ma mère, je pleurais. Okay. Je parlais à ma mère, puis je pleurais parce que j'étais tellement fier et content de l'accomplissement d'avoir passé finalement mon examen d'inspecteur. Puis que je savais que je m'en allais en même temps. Ça, je pense que c'était l'effet marquant de ma carrière, que j'étais plus heureux. Qu'est-ce qui est du côté que j'étais plus découragé ou plus déçu dans ma carrière? Je te dirais qu'avant de passer l'examen que j'ai passé là, je l'avais passé deux fois avant. Je l'avais passé deux fois avant l'examen. Je l'avais échoué. Ça, c'était très dur dans une carrière, là, parce que c'était beaucoup de pression, beaucoup de stress, là, de passer des examens, parce que là, ma vie, elle dépendait de l'examen.
C'est la même chose avec mon père.
Ah, toi.
Beaucoup d'années back. Oh, skip my mind just a moment. Your views of some potential dark clouds on the horizon.
Ouais, qu'est-ce qu'on peut voir présentement avec le gouvernement qui est présentement au pouvoir, c'est des gros changements là, qui s'en viennent de la commission. Si on regarde les prairies, dans l'Ouest, on parle de 500 personnes qui vont perdre leur emploi à cause des coupures du gouvernement en place. Ça me fait peur dans le sens que, ben, à vrai dire, nous, dans la région de l'Est, on ne devrait pas être affecté par rapport à les coupures que là, vu que justement que le mandat de la commission, ça se trouve à être d'inspecter le grain exporté. Mais qu'est-ce qui fait peur quand tu vois un gouvernement comme ça qui est pro-compagnie, c'est que justement, qui enlève l'inspection de grains un jour, puis que le grain soit en dehors de nos mains, puis qu'on ne puisse pas rien faire, puis que finalement, le grain du Canada va finir par baisser de prix, baisser de qualité, puis qu'on perde notre réputation, dans le fond, de meilleur grain au monde relié à les décisions qui ont été faites par le gouvernement. Ça, je trouvais ça très triste.
Has what you said sort of dealt with the issue of so what difference does it make? So what if the quality is not what it was? What difference does that make?
Ben, ce serait triste parce que, comme je vous dis, le Canada, on a une réputation à travers le monde avec la meilleure qualité de blé au monde. Je veux dire, pour ce qui est de la fierté des Canadiens, je pense que ce serait important que les Canadiens soient fiers de ça. C'est sûr qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup de Canadiens qui savent qu'est-ce qu'on exporte le plus, c'est le blé, puis qu'on a le meilleur blé au monde. Mais je pense que qu'est-ce que vous êtes en train de faire présentement, c'est ça. Ça peut informer les gens de ça, je pense. Ça serait super, justement, que les Canadiens soient au courant de ça. Du moins, les fermiers doivent l'avoir, mais les fermiers, même si ils sont un petit peu powerless ou sans défense vis-à-vis des grosses compagnies qui prennent de plus en plus le contrôle du marché, puis que le gouvernement, dans le fond, il est en train de juste d'endosser ça aussi. Le gouvernement est en train de dire. Les gros marchés, c'est les autres qui vont prendre le contrôle. Puis ça va faire mal aux petits fermiers, puis ça va être triste pour les petits fermiers.
We've taken about 30 minutes on this interview, so it's obviously that we didn't cover everything that we covered in the English version, and it may be difficult for you to think after all these hours. What questions haven't I asked in this interview that I asked in the others that you
Ben,
think you'd
t'avais
like to?
les anecdotes.
Dites-moi l'histoire de personne avec de l'eau.
La personne avec l'arrosoir. Ouais.
Yeah, we talked about, we're talking about changes, and one of the changes we talked about was the, and I don't think we've done this in French yet, one of the changes in the philosophy about drinking on the job.
Ouais, les histoires de boissons, ouais, c'est ça. C'est officiel que quand moi j'ai commencé à travailler, les employés, les vieux employés, ils faisaient beaucoup d'heures sur les lieux de travail. Même les employés de la CGC faisaient beaucoup d'heures aussi sur les lieux de travail. Je pense que la façon qu'ils prenaient pour s'évader de ces problématiques-là de beaucoup d'heures de travail, c'était avec de l'alcool. Puis les employés, à l'époque, monsieur avait deux casiers, puis il y avait un casier sur l'alcool, puis l'autre casier, c'était pour son linge. Puis qu'il y avait déjà des histoires aussi qui avaient été dites que le monsieur qui avait fait du chantage à un navire, à l'équipage de navire pour avoir de l'eau, il fallait que l'équipage de navire il donne une bouteille d'alcool pour que l'employé à l'époque, il donne l'eau au bateau. Finalement, il a eu sa bouteille d'alcool, puis il a bu son bouteille d'alcool pendant qu'il travaillait, puis qu'il était sur la bord du navire. Puis quand il est venu pour débarquer du navire, ben, il y avait la passerelle qu'il prenne pour du bateau au quai, puis il a vu qu'il débarque sur la passerelle à quatre pattes parce qu'il avait trop pris d'alcool, il était trop chaud.
But things have changed.
Oui, ça a beaucoup changé la nouvelle génération. Je pense que c'est pas leur façon de penser. Puis la nouvelle génération aussi, c'est passer moins d'heures au travail. À la limite, les compagnies, il faut qu'ils se virent de bord puis qu'ils se disent on va engager plus de monde pour pouvoir couvrir des heures qu'il faut faire. Fait que la nouvelle génération, c'est si je fais ma job, après ça, je m'en vais chez nous. Puis je profite du temps que j'ai avec ma famille puis chez nous. Parce que je pense que d'ailleurs, c'est la génération-là ont appris justement de leurs parents, de voir leurs parents tout le temps au travail, bien, ils se sont dit qu'ils ne voulaient pas vivre la même situation et qu'ils voulaient être plus présents pour leurs enfants.
I'm not sure when you were talking about your career early on, and you did a really rapid fire coverage of it, and talking also a little bit about the difference between how things are done in Thunder Bay and how things are done here, and just the fact of how the offices, like in Thunder Bay, everything's you've got, seven elevators, seven elevators set up all in one place, and so they have a central office, and everybody, it's easy enough to assign people to different elevators because you're within, 15 minutes of every elevator, but that's not here. So how does it work here?
Ça, c'est une très, très grosse problématique. Je veux dire, à l'époque, à Bécomo, on était trois. Ils sont rendus huit à Bécomo. Port-Cartier, ils sont rendus huit aussi. Puis, il était quatre à Port-Cartier. Ça, c'est aussi un des gros changements qu'on a vu. C'est plus d'employés, mais vu que, comme je disais tantôt, que les employés ils veulent faire moins d'heures que dans le cas de l'époque, mais ça occasionne sûrement des problématiques là, vis-à-vis justement si il manque quelqu'un à Bécomo Port-Quartier, puis que la problématique que je vis depuis que je suis rendu inspecteur, ça n'arrête pas de continuer, de persister, c'est qu'il n'y a pas assez de gens formés. La CGC, les inspecteurs au Québec, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait seulement 15 ans que je travaille à la commission, puis je suis le plus vieux pilier 3 sur Saint-Laurent. Je pense que c'est sûr que là, on est rendu qu'un un officier d'entraînement, un training officer. Qu'est-ce qu'on n'avait pas là, 2 ou 3 ans. Mais on a encore beaucoup d'ouvrages à faire là-dessus là, pour qu'est-ce qui est la formation d'inspecteur. Faut que ça se forme de plus en plus. Puis, idéalement, je pense qu'il faudrait quasiment la moitié du staff qui est dans les bureaux soit inspecteur. That's one question you didn't ask me in French is about Winnipeg, the way we see Winnipeg.
Okay. En anglais?
What was it in French?
Or in English?
No, what was the question in English?
In English, just the connection between here and Winnipeg. Like,
ouais.
Are they the other side?
C'est sûr que Winnipeg puis ici, c'est très différent. Je veux dire, même ici, Thunder Bay, c'est très différent. C'est sûr que Stéphane a un peu dit plus les différences qu'il y a en Thunder Bay puis ici, mais c'est certain qu'il y a une grosse différence là, vis-à-vis le travail, vis-à-vis le travail d'équipe, vis-à-vis les mentalités. C'est très différent. Je pense que la région de l'Est, le Québec, ils ont encore la vieille mentalité là, qui est ton travail, c'est ton travail, puis c'est quasiment militaire, là, tu sais. S'il faut que tu travailles, tu vas travailler, puis regarde, c'est pas grave, si t'as des familles, puis un enfant, il y a de l'ouvrage, tu travailles. C'est un peu la vieille mentalité qu'il y a encore dans la région de l'Est. Qu'est-ce qui est de Winnipeg pour ici? Ben, c'est officiel que eux font pas autant de temps supplémentaire ou de l'ouvrage de temps supplémentaire que nous. Puis moi, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est qu'une personne qui n'a jamais fait de surtemps, qui n'a jamais fait de temps supplémentaire, peut pas savoir c'est quoi effectuer 600 heures de temps supplémentaire par année ou 500 heures de temps supplémentaire par année s'il ne l'a pas fait. Puis je pense que ça, c'est gros parce que même si tu expliques aux gens de Winnipeg qu'il y a une problématique dans la région disant qu'on fait beaucoup de temps supplémentaire, s'ils l'ont pas vraiment vécu, peux-tu vraiment savoir c'est quoi? Moi, avec mon expérience, je pense qu'ils ne savent pas vraiment c'est quoi. Puis il y a déjà eu des réponses aussi comme quoi que si tu n'aimes pas ton travail, change de travail. Mais je pense que pas que c'est une réponse à donner à un employé, mais ça a déjà été donné à un employé.
Do people ever make a transition from here to Winnipeg?
Il y en a un que je connais qui est parti d'ici, qui était à Winnipeg, mais c'était parce que sa femme venait de Winnipeg. Mais ils se sont séparés. Une fois rendus à Winnipeg. Triste, mais vrai.
Any other questions that we haven't covered? I'm sure there are. Believe me, I'm sure there are.
En français, oui.
Well, we talked about the wheat board. I don't know if you want to say something about what you see as your connection with the wheat board.
En français, le wheat board. En gros, le wheat board, ça se trouve être lui
Comment
qui.
dit-on wheat board en français?
La commission du blé. Commission du blé, dans le fond, c'est ça, c'est qu'eux autres, on n'a jamais vraiment contact direct avec eux. Mais c'est sûr que le grain qu'on manutentionne et qu'on inspecte appartient souvent à eux, puis c'est eux autres qui le vendent. Moi, qu'est-ce que je peux comprendre de la commission du blé, c'est que c'est eux autres qui vendent le blé, puis avec nos standards qu'on leur donne, nos standards qu'on ramasse là, tous les ans, là, puis que le comité de normalisation fait un échantillon. C'est avec ces échantillons-là que le wheat board va aller outre-mer dans les autres pays pour vendre le blé, que je trouve être le minimum visuel du blé que l'acheteur va acheter, dans le fond. Puis que c'est eux autres qui, dans le fond, qui garantissent que si un fermier il y a une mauvaise récolte ou il arrive un problème dans une récolte, que la commission du blé va payer pour dédommager les fermiers. Puis c'est sûr que qu'est-ce que je peux me rendre compte aussi, c'est que de plus en plus, il y a du parler comme quoi que la commission du blé n'existera plus pour laisser place aux grosses compagnies là, qui vont prendre le contrôle du blé. Personnellement, moi, je ne considère pas que c'est une bonne chose. Seulement le temps le dira, mais c'est ça.
C'est ça.
Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire.
En
En
anglais?
anglais. When you go like, how do you say that in English?
Poof.
And
Exhausted.
in French, when you do that, it's just a soupir. You go
Un
like,
soupir. A sigh.
That's a soupir. Sigh.
A sigh.
And the expression in French means a heart that size doesn't have what it needs, or something like
Oh.
that.
No, not more than I need. Okay, I think that that we have given a really good try today. I've learned so much about
Good.
the eastern side of the system. What I'm missing now is actually between Thunder Bay and Quebec City. I feel I know a little bit more about Montreal. But I know nothing really much about the delivery from the farmers to the that's the other thing then that the kind of product that's here that you test that's something that we talked about in English. So what's the difference in the what are the major products that come out of here?
Oui, qu'est-ce qui sort d'ici? C'est du blé roux en France, blé roux de printemps, du ratisprin. Je dirais qu'en français, j'ai connu les noms, je m'en souviens pas exactement, en tout cas. L'autre, c'est le blé dur d'Ambry, qui se trouve à être deux blés différents. Un blé, c'est pour les pâtes alimentaires et le couscous. L'autre, c'est pour le faire la farine pour le blé. C'est les deux sortes de grains les plus exportés du Québec. Ensuite de ça, on a aussi pour le blé québécois, on a du. Pour le grain québécois, le grain québécois, on a du maïs et du soya bean. Du soya qui se trouve à être les deux sortes de grains qui vient des fermiers principalement du Québec et qui est exporté. Ce serait les deux, ouais. Les deux principaux. Quand même, au Canada, au Québec, on récolte aussi, on pousse et on récolte du canola aussi. Puis de l'orge aussi, de l'orge pour faire des bières locales.
Ah.
Oui.
So with corn and so corn especially, because corn is something I don't think that is shipped out of Thunder Bay.
Non, non plus.
From an inspection point of view, is there anything special about corn, or is it same, you look for the same kinds of problems, or does corn give
Non,
you
le
some pressure?
maïs, c'est différent. Le maïs, c'est plus du le casser. Parce que quand tu manutentionnes du maïs, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le grain va se casser. Contrairement à du blé, que ça casse pas vraiment beaucoup comparativement au maïs. Après ça, c'est sûr que les pourcentages d'humidité sont différents. Puis t'as des maladies qui sont différentes aussi. Mais c'est le même principe. Faut avoir les pourcentages là, pour expédier le grain.
The other thing that is different from what I recall from the earlier conversation was my experience in Thunder Bay, limited as it is that the companies have sort of a parallel inspection. They have their own staff, so they have their own inspectors. Is that the same here?
Non, au Québec, je vous dirais que c'est très différent encore. C'est encore un petit peu la mentalité là, que c'est la commission qui s'occupe de la qualité. Souvent, les commentaires que tu peux avoir des compagnies, c'est qu'il est rentré comme ça. Il a été déchargé des Laker, des laquiers comme ça, puis on l'expédie comme ça. Mais il y en a comme à Bunge, je pense que c'est la place qui c'est le plus. Bunge, peut-être Sorel un peu, mais moins Sorel. Là. Je vous dirais peut-être Bunge. Parce qu'on a un ancien inspecteur, que ça fait peut-être 6 ans, qui est parti pour la compagnie, puis qui avait des connaissances, qui était un inspecteur de la CGC, puis que là, il est rendu directeur à Bunge, qui a montré un petit peu à ses contremaîtres le fonctionnement du blé, ces affaires-là. Mais en tant que tel, là, je vous dirais qu'il se fie beaucoup encore sur l'expertise des inspecteurs de la CGC.
One final question, I promise. I don't think I've asked this. If we were to be successful in our quest to set up a grain industry center, what would you think is important for general Canadians to know about Canada's grain industry?
Bien, je veux dire, c'est sûr que pour la province de Québec, puis peut-être même pour je regarde les provinces du Nouveau-Brunswick, province de Colombie-Britannique, je sais pas si exactement ils réalisent comment c'est gros l'industrie du blé. Là. Je pense que il y a beaucoup de monde qui réalise pas ça. Je pense que ça serait de mettre l'importance sur la quantité de grains qui est exportée du Canada. Comme je disais tantôt, c'est qu'est-ce qui en exporte le plus du Canada? Déjà là, c'est une information que je pense que c'est pas nécessairement tout le monde sait. Puis d'essayer de partager la fierté avec les gens de notre blé, en fond. Essayer de trouver une méthode, une façon de que les Canadiens soient fiers de leur blé. Je veux dire. Les Canadiens, on s'entend qu'ils ne sont pas fiers de leur armée. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on est fiers de notre armée, le Canada. Fait qu'à part, on est fiers de pouvoir voyager et de ne pas de se faire présenter la main et un sourire, contrairement à les Américains qui ne se font pas nécessairement bien vus quand ils voyagent. Ça, c'est le fun, ça, c'est le côté le fun des Canadiens, c'est de pouvoir voyager puis pas avoir de problème. Puis qu'on est gentil. Les Canadiens ont la réputation d'être gentils, puis souriants, puis très polis. Mais je veux dire, qu'est-ce qui est de vraiment un produit ou quelque chose de fierté, je pense que le blé, ce serait quelque chose qu'on peut mettre l'accent d'avoir une fierté. Ce serait juste de trouver une méthode ou une façon de propager la fierté de ça. C'est justement d'informer. Je pense que l'information, c'est gros. Hein. Je veux dire, il y a une expression qui dit knowledge is power. Je pense que c'est ça aussi. Hein. Je veux dire, si les gens étaient plus informés, parce que c'est sûr que c'est comme n'importe quel être humain. Là, je veux dire, quand tu t'en vas visiter une ville ou tu te promènes dans la ville puis tu vois des industries sur le bord, tu ne poseras pas nécessairement la question c'est quoi ça? C'est quoi, à quoi ça sert cette usine-là? Puis, tu sais, à la limite, si tu dis que c'est du blé, là, ils vont dire du blé, tu sais, d'autres, ils réalisent pas nécessairement c'est quoi non plus. Fait que je pense qu'avec un genre de musée, avec les différentes sortes de blé qui poussent au Canada, puis, je veux dire, la quantité de grains exportés, l'argent, des coûts d'affaires, là, je pense juste avec ça, on peut piquer la curiosité, je pense, les gens, les Canadiens, là, puis dire qu'ils s'arrêtent puis qu'ils disent ah ben c'est vrai c'est quelque chose juste à Québec je sais pas si we didn't talk about this I don't know if you heard about it le moulin en images
Oui, ce soir.
ouais that's spectacular also this is going to be worldwide I don't know if you can bring this back to Thunder Bay and maybe because this is big c'est très gros là il y a beaucoup de touristes qui viennent regarder le spectacle, puis c'est incroyable, là, je veux dire, c'est un écran avec des projections d'images sur l'écran. Là, c'est rendu 3D. Cette année, c'est 3D, 3D. I don't know if you need glasses, but I have some. C'est rendu 3D, là, je veux dire, c'est spectaculaire, là, puis les autres pays qui se rendent compte que, justement, qui ont des silos comme ça, qui peuvent projeter des affaires dessus. Montréal, je sais qu'ils ont fait genre de salle d'opéra que tu sais, le son est apparemment qui est très bon dans la bâtisse.
So 100 years from now, when somebody else is listening to this tape, maybe you should say something in English about what you just said in French.
Don't speak French, I agree. I think the Canadians what's important is the knowledge that the knowledge is power. So I'm thinking that for sure when you travel around the world, when you see your Canadian, they say, oh, Canadians are good people, nice people, but you don't have any other, connections with the grain business, but I think they could and they should because if we can have the reputation of having the best grain in the world, if people would know that. I think it would be a big thing. But the how we could do that, that well, that's another thing we'll have to discuss maybe
In your
later.
volunteer
Yeah.
work.
In my volunteer work, yeah, exactly. But for sure, I think like if we inform people of just the how many years it's been installed in our mentality. If you look at Saskatchewan, Alberta, Manitoba, even Manitoba. It's those provinces are fields. It's fields of grain, and just that it's impressive, and we should be proud of that because, if you think about the water, you can think about like the Quebec. Quebec, we have good water because of the we're the mountains and stuff like that. And if you think about Saskatchewan, Alberta, you see like fields, but you cannot imagine how much is exported from our country is that it's grain, and how much money it's worth, for only 1 ton of grain. I know it's hard to imagine what is 1 ton of grain, but it's not a lot, It's not a lot because a boat is 20,000 tons. So I think that's one
Unless in
part.
the old days you had to shovel it, then you
Then you knew, eh? Then you knew how what was 1 ton, yeah. But it's important that we continue to we don't stop and just say, well, we'll leave it like that, you know. If we have to grow with the business and try to find new ways to that people know, you know, just only like here in Quebec. I know for when I started here in Quebec and I spoke with people from Quebec, I say I work at Bunge. They say, what's Bunge? You know, where's Bunge? I say, you know, the Moulin Image. Moulin Image, that's one thing that's put Bunge on the map, you know, and it's very good. It's not Bunge that does the show on the bins, but when you go see the show on the bins, you see Bunge. So that's marketing, incredible marketing for Bunge. So for sure, they said yes. Huh? You want to put the show on my bins? It won't cost me nothing. It won't, you know. I had the publicity of Bunge. Mm-hmm. For sure, I'm going to say
yes. So
what
is the show?
The show is a movie. It's like a movie that one of our local producers made. It's a history of Quebec, actually. It's a story not only the province, but the town of Quebec. So it's a history. It's like the history. You have like frames that go by, and you see like the building of some buildings here, some important people, politicians, a little bit of politicians, a little bit of religion. When they came here, the Indians, a little bit, you see a bit of Indians. Like this, like a show of a history of the. Of the Canada Quebec, yeah.
Well, we are going to have to call it quits, not because I'm tired of listening, but because we are running out of tape.
Yeah, no problem.
So I have to say goodbye, and I hope that this is just the beginning of
for sure.
Things that we do together.
Yes, for sure. Okay. I have no problem now with internet and
right.
Telephone.
That's right. I cannot be stopped now. Au revoir, merci.